Musicopolis. Mars 1882, cirque d'hiver, rue Amelot, Paris 11e. La matinée du dimanche 26 mars 1882 est annoncée dans le courrier des théâtres du journal Gil Blas. Cirque d'hiver, première audition de Irlande, légende symphonie de Mademoiselle Augusta Holmès, l'auteur applaudi des Argonautes. Ce sont les concerts populaires qui tiennent leur séance le dimanche au Cirque d'hiver, près du boulevard du Temple et de la place de la République. Jules Padeloup, le chef d'orchestre, a créé, voici une vingtaine d'années, des concerts donnés dans cette salle de 4000 places, à des prix très modiques, pour attirer un public plus populaire, d'où leur nom, que celui qui fréquente les autres salles, et en particulier l'opéra. Mais la concurrence est vive, puisqu'en matinée dominicale, les concerts populaires de Padeloup doivent lutter contre tous les spectacles de théâtre et de musique dramatique de la capitale, mais aussi contre trois autres associations symphoniques, les concerts Colonne, L'Amoureux et Broustet. Et cela sans compter les événements inédits, comme en ce 26 mars 82, une grande matinée musicale et dramatique au Trocadéro, au bénéfice de la Société de secours mutuel des ex-militaires. Nous savons par plusieurs journaux que le public des concerts Padeloup a accueilli par des applaudissements répétés Irlande, la nouvelle pièce d'Augusta Holmès, qualifiée de légende symphonie. Mais qui est donc cette femme et comment la connaît-on à cette époque? Elle s'est fait depuis quelques années une réputation comme pianiste et musicienne. Elle fréquente les cercles de musiciens et son nom est souvent cité comme celui d'une fervente wagnérienne. Lorsqu'Augusta Holmès aime un compositeur, elle le fait savoir, et même avec un certain lyrisme. Éduquée dans un milieu très littéraire, filleule d'Alfred de Vigny, elle prend facilement la plume pour des textes dramatiques, poèmes ou autres essais. En 1869, elle a encore 21 ans, elle fait paraître un article dans le journal de Versailles, ville où elle a passé son enfance, à propos de Laure Durin. Wagner, écrit-elle, a chanté en poésie et en musique toutes les passions humaines. L'heure approche où sa grandeur sera incontestée. Il laissera au front de ce siècle l'empreinte d'une main de géant.
Thank you.
Augusta Holmès se fait remarquer comme wagnérienne, mais plus généralement, elle se fait remarquer par son physique et sa personnalité. Le critique et historien Arthur Pougin, dans Le Ménestrel, la décrit vers 1875, elle a alors 28 ans, venant présenter une partition au Théâtre du Châtelet. Un jour, nous voyons arriver une jeune femme d'une beauté rayonnante, à l'opulente chevelure blonde, au regard clair, perçant et assuré, à l'allure fière et décidée. C'était Mademoiselle Augusta Holmès qui venait demander l'audition d'un drame lyrique, Héro et Léandre, dont elle avait, comme Wagner, écrit les paroles et la musique. Je dois constater que les théories wagnériennes ne s'étaient guère fait jour dans la musique que nous faisait entendre Mademoiselle Holmès, avec son beau talent de pianiste et sa voix chaude, et que sa partition me parut tout simplement fort intéressante, en me donnant la meilleure impression de son talent. Et je n'étais pas le seul à penser ainsi. Parmi les cercles que fréquente Augusta Holmès à Paris, certains sont musicaux, d'autres littéraires, notamment celui des Parnassiens, un collectif de poètes. Catulle Mendès en fait partie. Il est l'éditeur de plusieurs volumes qui réunissent les poèmes d'un grand nombre de ses contemporains. Dans un recueil de souvenirs, l'essayiste Maurice Talmer raconte « Le Parnasse n'avait pas qu'un domicile. Il tenait aussi ses assises chez Mademoiselle Holmès, où Mendès se trouvait également un peu chez lui. » Avec le souvenir de sa juste et grande notoriété de compositeur et de pianiste, Augusta Holmès a laissé celui d'un charme et d'un esprit apprécié de tous ceux qui l'ont connu. Talmer se souvient du salon d'une femme riche et bien élevée. « On se retrouvait, écrit-il, dans une atmosphère de littérature et de paradoxe, où vous attirait le talent et le renom de musicienne de l'hôtesse. » Quand on s'y était déjà grisé de vers, de prose et d'audacieuses et rudes controverses, elle s'asseyait à son pleyel et au milieu des cris et des silences d'admiration, vous enivrait par la délicatesse ou la vigueur de son jeu et les emportements de virtuosité et de rêve qui pouvaient rappeler ceux de Liszt.
Thank you.
Augusta Holmès n'est pas une jeune femme effacée. Partout où elle va, elle rayonne. Elle est le centre des regards. Elle séduit par sa beauté, mais aussi par son talent, sa chaleur, son ardeur et sa magnifique voix de contralto. Elle fait tourner les cœurs, celui de Saint-Saëns par exemple, qui la demande deux fois en mariage et se fait éconduire deux fois. Pour la peine, il la traitera publiquement d'outrancière. Elle fait partie d'un groupe de musiciens qui se réunissent chez l'éditeur Hartmann au début des années 1870. On y trouve Bizet, Massenet, Saint-Saëns, Lalo et même l'aîné César Franck. À cette époque, Holmès va prendre justement quelques leçons avec Franck et ainsi parfaire le sérieux de son éducation musicale qui avait été jusque-là un peu sommaire. Son professeur n'est pas resté insensible à son charme, il a même éprouvé une grande passion pour elle, dont le résultat a été le quintet composé en 1879. Au moment où César Franck éprouve cette ardente passion pour Augusta Holmès, celle-ci vit depuis plus de 10 ans avec le poète Catul Mendès, avec qui elle a déjà 4 enfants. Elle en aura un 5e peu après, qui mourra en bas âge. Si la liaison de Holmès et Mendès est connue du milieu artistique, en revanche, très peu de leurs amis savent qu'ils ont des enfants. Ce qui suppose qu'Augusta a dû vivre ses grossesses et ses accouchements dans la clandestinité. Sachant qu'elle avait une vie musicale et mondaine très active, il est probable que ces interruptions d'activité représentaient une complication importante dans sa vie. Mais quoi qu'il en soit, ça ne l'a pas empêché de composer.
Thank you.
Lorsqu'Augusta Holmès a été en pleine possession de son art, après ses cours avec César Franck, elle a voulu se présenter à des concours. Il est alors trop tard pour le prix de Rome, et puis le sérieux des épreuves avec fugue et écriture rigoureuse n'est pas vraiment adapté à sa personnalité flamboyante. Elle tente donc le prix de la ville de Paris. En 1877, elle compose Lutèce, une symphonie dramatique. Elle obtient le deuxième prix, derrière Benjamin Godard et Théodore Dubois. Elle se présente à nouveau en 1879 avec Les Argonautes. Elle loupe le premier prix et même l'ex aequo. Mais par chance, un éditeur voudra bien publier sa partition, qui sera lue et appréciée par Jules Padeloup, qui va la mettre à son programme. Il l'exécuta lors d'un concert le 24 avril 1881, écrit la compositrice, et elle reçut, je le dis sans fausse modestie, un immense succès. La partition des Argonautes est riche et foisonnante. Elle nécessite un effectif important, des solis, chœurs et orchestres, ce qui explique sans doute qu'elle ne soit pas enregistrée, alors que si l'on en juge par les critiques de l'époque, c'est une œuvre belle et originale, et qui a pour effet qu'on parle ensuite d'Augusta Holmès comme de « l'auteur applaudi des Argonautes ». C'est ce succès qui permet ensuite à notre musicienne de faire jouer sa légende symphonique Irlande. Le Gil Blas parle ainsi de la création d'Irlande d'Augusta Holmès le 26 mars 1882. Le public des concerts Padeloup a accueilli par des applaudissements répétés cette belle page descriptive, terminant de manière fort heureuse par une habile transcription du chant national irlandais. Mademoiselle Holmès, l'auteur des Argonautes, est née en Irlande. Quoique française, le souvenir de son pays natal l'a enthousiasmée. Entre parenthèses, je précise qu'Holmès est née à Paris de père irlandais. Il s'appelait Holmes, comme Sherlock, et elle a ajouté un accent aigu sur le E pour faire plus français. La compositrice, poursuit le Gil Blas, propose un programme que les auditeurs sont invités à suivre. Après la description d'un pâtre qui chante, par la voix de la clarinette, sur les collines brumeuses, elle évoque les fils d'Irlande qui buvaient, riaient, dansaient au son d'une gigue. puis une marche funèbre marque le deuil venu avec l'esclavage. Mais voici que les rocs s'écroulent et de la terre entrouverte jaillit une armée de cavaliers géants. Alors qu'à la même époque, l'Irlande est en proie à une période sombre de son histoire, Augusta Holmès termine sa légende symphonique par ces mots « Chante, ô peuple misérable, ton vieux chant triomphal !» Car les héros de l'antique Irlande sortent des tombeaux séculaires pour la délivrance de leurs enfants. Irlande, légende symphonique pour orchestre d'Augusta Holmès, avec l'orchestre philharmonique de Rhénanie-Palatinat, dirigé par Samuel Friedman. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Guillaume Ledu pour le mixage et Claire Lagarde pour la réalisation.